Aujourd'hui, 24 mars, c'est la première de l'émission des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. C'est votre magazine d'actualité sur les enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme. Donc, nous serons avec vous les premiers et troisièmes dimanches des prochaines semaines, de 15h à 16h, sur les ondes de choc.ca. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis en compagnie de Marie-Ève.
Bonjour
Mathieu. Bonjour. Et de Simon. Donc, nous sommes les Apatrides Anonymes pour vous animer dans les prochaines semaines. Donc, on doit souligner avant de commencer que aujourd'hui, notre première, il y a une manifestation en cours.
Oui.
Une manifestation contre le racisme et la xénophobie qui a commencé à 14h au métro Saint-Laurent et qui est sûrement pas très loin de l'UQAM, en quelque part autour de nous. Donc, bon timing quand même, Marie-Ève.
Peut-être que pour une prochaine émission, dans le futur, on vous fera une diffusion en direct, mais pour une première, disons que...
Ou on aura un reporter sur place par téléphone,
voilà.
Ou quelque chose comme
voilà.
Ça. Donc, voilà. Pour nous présenter, les Apatrides Anonymes, c'est un groupe militant, un groupe qui fait de l'action, qui fait toutes sortes de choses depuis plusieurs années. Nous sommes trois des personnes qui ont participé à ce groupe dans les dernières années. On a fait des actions, on a produit du matériel d'info, on a fait des événements culturels et on a surtout fait aussi des chroniques à CKUT pendant 7 ans à l'émission En profondeur les lundis soirs jusqu'en 2017.
Jusqu'en 2017.
Donc, on connaît la radio, mais c'est notre première, donc soyez indulgents, indulgentes, parce que c'est notre première sur les ondes de choc.ca et première fois qu'on fait une vraie émission complète, donc de 60 minutes. Donc, les Apatrides, c'est aussi une touche d'humour grinçant, vous allez voir au courant de l'émission tantôt. Notre thématique un peu, c'est d'essayer d'aller au-delà des frontières et de la paranoïa sécuritaire. Cette émission, dans les prochaines semaines, ça va être votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir, ou presque, sur les enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Au-delà des manchettes sensationnalistes des médias corporatistes, ces enjeux criants d'actualité sont malheureusement peu couverts et sont rarement l'objet d'une analyse approfondie et critique dans les médias francophones. En cette période de populisme et de montée de la droite identitaire et raciste, il est plus que jamais essentiel de porter un contre-discours informatif et aussi solidaire des communautés migrantes et des groupes qui les appuient. Donc, au menu des prochaines émissions, entrevues, chroniques, revues critiques de l'actualité, humour cinglant, agenda, musique, etc., etc. Des invités à chaque semaine, des nouveaux segments régulièrement qui vont se rajouter au cours des prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, une première capsule de la série de la Minute coloniale, une chronique humoriste avec Fred Dubé, l'actualité fédérale et internationale, l'agenda des prochains jours, des prochaines semaines, sans oublier la citation raciste de la semaine. Donc, dans quelques secondes, on commence avec Marie-Ève, qui s'entretient avec Camille de Solidarité sans frontières sur le controversé dossier de la nouvelle prison pour migrantes à Laval.
En 2016, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, annonçait des investissements de 138 millions de dollars dans le système de détention à l'immigration. Il avait alors précisé que cette somme servirait surtout à la modernisation des centres de Laval et de Vancouver. Le centre actuel de Laval, qui est une ancienne prison construite en 1950 et convertie en 1996, est jugé vétuste et mal adapté, et il peut aussi contenir jusqu'à 144 personnes. Le nouveau centre de détention, quant à lui, dont la construction doit être achevée au départ, on disait vers 2020, mais ça s'enligne plutôt pour 2021, nécessitera des investissements de 56 millions de dollars et pourra contenir jusqu'à 158 personnes. Alors, pour en discuter aujourd'hui, on reçoit Camille de Solidarité sans frontières. Bonjour Camille.
Allô.
Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, d'abord, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui va être détenu, en fait, dans cette prison-là?
Ça sera exactement les personnes qui sont détenues actuellement dans les trois centres de détention administrative au Canada. Donc, c'est des personnes que l'État canadien veut déporter. C'est aussi des demandeurs d'asile, parce qu'il faut savoir, en fait, qu'on peut être déporté à tout moment dans le processus migratoire. On peut être détenu, à tout moment dans le processus migratoire. Donc, une personne qui qui fait une demande d'asile, par exemple, pourrait arriver, demander l'asile et pour des raisons... qu'on pourra parler un peu si on a le temps. Cette personne-là va se retrouver en détention. Ça peut être une personne qui est sans statut, ça peut être une personne qui est en attente d'un visa de travail, qui est en deux visas. Ça peut être pas mal tout le monde qui est en situation d'immigration. Souvent, l'agence des services frontaliers va évoquer trois raisons. C'est plutôt bon, il y a risque de fuite, donc la personne elle se retrouve à Laval, en tout cas dans un des trois centres de détention, puisque ils vont dire c'est fly risk, la personne va peut-être pas se présenter à sa date d'expulsion. Ça peut être aussi pour des raisons d'identité, ça c'est beaucoup les personnes qui sont en demande d'asile quand on quitte son pays d'origine pour on fait une demande
d'asile. Les personnes qui n'ont pas de papiers.
Exactement, les personnes arrivent, peut-être la personne arrive avec des papiers qui n'est pas les siens, qui n'est pas partie avec tous ses papiers sur soi. Donc la personne arrive, fait une demande d'asile et là on dit « Ah, mais l'agent frontalier, qui ont quand même pas mal de pouvoir discrétionnaire, puis dire « Ah, ben on n'est pas certain de l'identité de cette personne-là, donc elle est placée en détention jusqu'à temps pour que l'identité soit prouvée. » Sinon, ça peut être aussi, bon, un danger pour le public ou pour soi-même, ce qui est un peu ironique, mais c'est quand même très rare. En fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est fly risk, risque de fuite ou identité non prouvée. Ouais.
Donc c'est ça, c'est pas des criminels, là. C'est pas des personnes qui ont commis nécessairement des actes illégaux, tu sais, qui sont détenues dans les prisons pour migrants, migrantes. Là.
Non, mais il faut savoir que bon, on pourrait discuter longuement de c'est quoi la criminalité, puis ouais. Bon, mais il faut savoir, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont détenues pour des raisons administratives, donc par rapport à la loi sur l'immigration au Canada, mais qui vont aussi être détenus dans les prisons fédérales, des pénitenciers fédérales ou des prisons provinciales, comme par exemple dans la région de Montréal, bien, c'est Rivière-des-Prairies qui est beaucoup utilisée. Donc les gens vont se retrouver parfois en centre de détention, ils vont être transférés dans une vraie prison ou ils vont aller directement dans une vraie prison, prison provinciale qui est gérée par services correctionnels puis tout ça. Là, c'est pas les mêmes agences gouvernementales. Et en fait, c'est ça, c'est à peu près plus de 30% des personnes détenues pour des raisons administratives qui sont dans des prisons provinciales ou des pénitenciers fédéraux. C'est quand même beaucoup.
Ouais. Puis qui est impliqué exactement dans ce projet de construction de prison-là qu'on parle là, tant du niveau
ouais.
Sur le plan du privé, là, du secteur privé, mais aussi gouvernemental?
Bien là, gouvernemental, ben, tu sais, c'est la sécurité publique. Là, Ralph Goodall qui avait sorti là, les subventions de 138 millions, là, les sous en 2016, c'est le ministre de la Sécurité publique. Il y a l'Agence des services frontaliers qui gère, qui est une agence gouvernementale qui a été créée, je pense, depuis les années 2000.
Qui gère le centre de détention,
ouais. Pour l'instant, il y a déjà des compagnies privées qui sont investies déjà dans le premier centre de détention qui est à Laval, là, qui a, par exemple, Garda, la compagnie Garda World, qui se présente comme des experts sécuritaires, assure le contrat là, de surveillance des personnes détenues, par exemple. Mais là, pour ce qui est du projet là, il y a deux compagnies, en tout cas ça c'est sûr, qui font les plans, comme le design, le plan, c'est la compagnie Groupe A, qui est une firme d'architecture qui est basée à Québec, puis la firme Lemay, qui est basée dans le sud-ouest de Montréal, dans Saint-Henri, à côté du métro Lionel-Groulx. C'est du design. Ils sont beaucoup pour le fait de créer des espaces, des immeubles avec la certification LEED, trucs écolo, machin. Donc pour l'instant, on sait que c'est ces deux compagnies là. Sinon, entre temps,
ouais, ils ont reçu comme 5 millions en 2017.
C'est ça. Okay.
Ce consortium là pour dessiner les plans.
Exactement, dessiner les plans. Je dirais que là il y a d'autres compagnies. En fait, c'est qu'il y a un appel en ce moment, il y a un appel de contrat, tu sais. Puis il y a des compagnies là qui vont c'est des soumissionnaires là, tu sais, qui soumettent ce qu'ils pourraient faire là, en termes de compagnie de construction, d'électricité, de services de surveillance, de sécurité et tout ça là. Donc ça, oui.
Certaines je pense que certaines de ces compagnies là d'ailleurs ont été ciblés entre guillemets, mm-hmm. tu sais, ouais. par la campagne mm-hmm. Stop pour la prison, mm-hmm. tu sais, mm-hmm. qui essaie justement de qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir en fait en ciblant les compagnies justement. Puis peut-être tu peux aussi nous parler des types d'actions qui ont été
ben là il y a eu comme là je me rappelle plus la date, c'était en février, il y a eu une manif qui a été dans Saint-Henri où on a marché jusque devant le groupe là, la firme d'architecture Lemay. Il y a eu des je crois que c'était le 20 février dernier, il y a eu une manif de bruit qui s'est fait sur le site parce que là en ce moment il y a rien qui a été comme construit là, le sol a été assaini, je pense qu'ils sont rendus à faire les fondations très bientôt. Donc et là il y avait une manif pour parce qu'ils savaient que les personnes que les soumissionnaires, que les différentes compagnies allaient se présenter pour aller visiter le site, ce qui est comme une procédure normale avec travaux travaux publics Service Canada là. Donc, il y a eu une manif et les personnes, en fait, les représentants des différentes compagnies se sont... je sais que, selon les bilans, il y a des personnes qui ont pu discuter avec eux puis essayer d'arriver à dire, ben est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que vous comprenez dans quoi vous vous embarquez, là, tu sais?
C'est un contrat, c'est pas... C'est que le but, disons, en les ciblant, est-ce que c'est comme de convaincre de retirer leur soumission?
Idéalement, oui, oui.
C'est
idéalement,
le fait c'est de retarder le projet, de...
Mais le but, ça serait que... Le but, c'est qu'on la construise pas, là, ce deuxième centre de détention qu'on le construise pas, là, tu sais. Mais donc, l'idée, c'est que oui, c'est que je pense que de dire à ses copains, sachez dans quoi vous vous embarquez, puis il y aura critique, ça, c'est sûr. Puis l'idée, ça serait, oui, qu'ils vont pas soumissionner quoi que ce soit avec le gouvernement fédéral, oui.
Le gouvernement, justement, dit que construire cette prison-là pour offrir des conditions de détention plus, et là, j'ouvre les guillemets, humaines, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, selon moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça existe une prison nécessairement plus humaine, là. Mais leur projet, en fait, moi, c'est plus beau, plus gros, plus techno, je dirais, comme leur mot d'ordre, là, du gouvernement Trudeau. Plus beau parce que dans les plans puis dans les documents qui ont été soumis par la firme Lemay puis groupe A, c'est de rendre ça plus beau. Donc mais c'est ce qui est fou, c'est que c'est vraiment spécifique, plus beau pour le regard extérieur, tu sais. C'est pas pour les personnes qui sont là.
Plus beau dans le sens que plus beau, ça genre, pas l'air dire, d'une prison, là, j'ai pas
ouais, exactement, tu sais, que ça qu'en fait qu'on essaie de cacher l'aspect carcéral du lieu, tu sais, l'aspect institutionnel du lieu. Là, j'ai pas les citations là devant moi là, mais tu sais, ça dit genre on va mettre des arbustes sur devant les clôtures pour cacher les clôtures. On va faire un espace de jeu pour les enfants parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont détenus hein, au Canada. Des mineurs qui sont accompagnés ou non accompagnés. Bon. De faire un truc de terrain de jeu qui va ressembler à une garderie, mais que les enfants pourront pas voir à l'extérieur. Privilégier le bois plus que le béton. C'est vraiment de l'aspect esthétique, en fait. Ouais. Puis... ouais, plus gros parce que là tu l'as dit tantôt, il y aura plus de lits disponibles. Puis techno aussi, parce que ça, je trouve ça quand même important de le dire aussi, c'est que l'idée, c'est que dans ce centre-là, ils vont construire des salles de vidéoconférence. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que quand la personne est en détention, elle fait des révisions de détention. On va pas mm-hmm. rentrer dans les détails, mais c'est aux 48 heures, après c'est 7 jours, puis après c'est un mois. Puis normalement, la personne, elle quitte le centre de détention et s'en va à Guy Favreau, oui, là où il y a une révision de détention devant un commissaire. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'avec avec les vidéoconférences, la personne va juste jamais sortir du centre. Puis elle va rester à Laval. Puis ça, c'est déjà vraiment compliqué pour les représentations légales, les avocats. C'est déjà compliqué. Souvent, une révision de détention, ça va être le moment pour que la personne puisse rencontrer son avocat avant, après, préparer des choses, discuter. Et là, ce qu'on voit, c'est que la personne va être complètement... Elle va être à l'autre bout, à Laval, dans une salle. Et ça, c'est vraiment, vraiment questionnant. C'est hyper inquiétant.
Bien, c'est paradoxal aussi parce que ça déshumanise encore énormément. Plus le processus puis la personne comme telle, tu sais, alors qu'on dit justement
ouais, exactement. C'est ça.
Offrir puis, des conditions de détention ouais, plus humaines.
Exactement. Puis ce qu'on entend aussi avec les... En fait, rapidement, tu sais, pour ce qui est des révisions de détention, souvent, c'est que la personne, on lui demande de coopérer avec les services frontaliers. On veut pas savoir son histoire, on veut pas savoir pourquoi elle a quitté son pays. On demande, est-ce que tu vas collaborer? C'est quelque chose qui est hyper intense, puis on demande une espèce d'honnêteté là, de la personne. Puis là, on s'imagine que la personne est loin, tout seule, dans une salle de vidéoconférence qui sort jamais du centre de détention de Laval. C'est encore plus problématique pour elle aussi, tu sais. En tout cas, bref, c'est... ouais, voilà.
Donc, Donc, au-delà de ça, pourquoi, donc, pourquoi on devrait, pourquoi, qu'est-ce qui, pourquoi on devrait s'opposer à ce projet-là? Pourquoi la population devrait être opposée à ce projet de centre de détention?
Ouais, mais je pense que plutôt que construire deux nouveaux centres, parce que comme tu l'as dit tantôt, il y a le centre pour à de Laval, puis il y a le centre à Surrey en Colombie-Britannique, ouais, qui va ouvrir là. Alors, je pense qu'on devrait utiliser cet argent-là pour régulariser le statut des personnes, puis les accueillir comme il faut, en fait. On essaie avec ce projet, c'est un projet de PR, c'est un projet de relations publiques, c'est d'image. On essaie de nous vendre une prison, un lieu qui va être beau, qui va être un lieu, qui va être un lieu d'hébergement, mais plus écolo, avec LEED, machin, certification LEED. Mais dans les faits, c'est une prison et ça va avoir les mêmes buts qu'elle sert, que celle-là de Laval sert actuellement, c'est-à-dire d'immobiliser les personnes en vue de les déporter, des personnes qui, dans notre système actuel de citoyenneté à deux vitesses, c'est ça, la citoyenneté, c'est, il y en a qui on est avec la bonne, puis il y a des personnes qui naissent avec pas la bonne, puis c'est des gens aussi qui quittent leur pays, tu sais, qui fuient leur pays, qui ont été forcés aussi de quitter pour des conditions, par rapport avec des conditions qui ont été créées parfois même par les pays comme le Canada, tu sais, avec leur politique économique, ouais, les intérêts qu'ils poursuivent économiques, politiques, tu sais.
Avec le réchauffement climatique.
Exactement,
et tout
aussi,
on risque
exactement,
d'avoir des vagues,
exactement,
de migration,
exactement,
environnementale, mm-hmm, de plus.
Donc, moi, je pense que c'est pour ça. Puis de toute façon,
réfugiés climatiques.
Exactement. Puis moi, à Soldat-Tempo, on a des revendications claires. On est contre les détentions, contre les déportations, puis on veut la régularisation de tout le monde. Donc,
voilà. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent justement dans la campagne pour.
Il y a beaucoup sur l'éducation populaire. Il y a eu plusieurs petits ateliers qui ont été faits à différents endroits. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, peut-être écrire à Stop pour la prison ou au moins à Soldat sans frontières. Si vous travaillez dans un organisme communautaire, puis vous dites, hey, ça serait cool qu'on se fasse un café rencontre là-dessus. Ça a été fait dans différents centres de femmes, tout ça. Fait que ça apprend vraiment les gens. C'est quelque chose que les gens ne savent pas du tout. Hein. La majorité des gens ne savent même pas qu'il y a des centres de détention au Canada. Donc, tu sais, l'idée, c'est de propager, d'expliquer aux gens c'est quoi qui se passe, le phénomène. Donc, il y a ça, on va en faire d'autres. Il y a aussi, très rapidement, pour ce qui est de... c'est le 13 avril, c'est un samedi, il va y avoir une manif devant le centre de détention de Laval pour souligner le premier anniversaire de la déportation d'une dame, Madame Lucie Granados, qui a été déportée l'année dernière. Ça a été un gros combat, puis ça a été vraiment...
De façon assez violente,
ouais,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc, le 13 avril, elle a été déportée. Donc, on va se retrouver là-bas. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours aller sur le site de Solidarité sans frontières. On écrit un petit email, puis on va vous donner toutes les infos. Mais c'est le 13 avril, c'est samedi, le 13 avril.
Merci beaucoup, Camille.
Ça me fait plaisir.
Puis, lâchez pas.
On lâche pas.
On poursuit la lutte.
Oui, merci beaucoup. À vous.
Merci.
Toujours à l'émission des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Merci à Camille de SSF. Marie-Ève, on la retrouvera tantôt aussi pour d'autres segments. On va parler un petit peu d'actualité canadienne, fédérale, nationale, appelez ça comme vous voulez. Peut-être vous dire au départ qu'on va en parler peut-être pas mal dans les prochaines semaines parce que c'est la fin du fameux mandat Sunny Ways du Parti libéral du Canada, de Trudeau, à Ottawa. Et il avait fait tellement de promesses sur les réformes en immigration, sur le SRS, sur l'Agence des services frontaliers, sur un paquet de trucs. Et là, on va faire le bilan un peu des prochaines semaines de tout ça. Et c'est sûr qu'actuellement, les fruits sont assez faibles. Disons que l'arbre a beaucoup rabougri. D'ailleurs, la semaine, pas plus tard que la semaine passée, j'osais pas. On verra à la fin du bilan. Disons que la semaine passée, on a même entendu des rumeurs sur le fait que l'entente sur les tiers pays sûrs était en négociation avec les États-Unis actuellement, en renégociation, et que l'intention du gouvernement fédéral était de l'appliquer à toute la frontière, donc pas seulement aux postes frontières, comme vous savez. En vertu de cette entente-là, les gens peuvent pas faire une deuxième demande de statut, soit au Canada, soit aux États-Unis, s'ils l'ont déjà fait dans le pays précédent, mais s'ils passent pas aux postes frontières officiels, il y a comme une clause qui fait qu'ils peuvent faire la demande quand même au Canada ou aux États-Unis, dépendamment de quelle direction ils arrivent. Mais là, il y a des rumeurs comme quoi ça serait étendu à l'ensemble de la frontière, donc tout le monde serait renvoyé automatiquement, peu importe par la façon dont elles arrivent au Canada ou aux États-Unis. Donc ça, il y a ça comme rumeur, ça n'a pas été confirmé, tandis que la plupart des groupes demandent que l'entente soit suspendue, donc que les personnes puissent faire une demande de statut, peu importe la façon dont ils arrivent au Canada. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on aimerait, mais c'est pas le cas actuellement. Sinon, ben sur le CRS, ça fait des années qu'on attend... on attend. On aimerait ça qu'il n'existe plus, mais s'il il existe toujours, on attend qu'il y ait un mécanisme plus de contrôle, d'imputabilité, qu'il y ait un comité beaucoup plus, un comité de plainte, entre autres, ce qui n'a jamais été fait. Il y a eu des projets de loi des libéraux depuis quelques années, mais ça ne s'est jamais concrétisé. L'Agence des services frontaliers du Canada, ben, on a entendu dans les dernières semaines beaucoup de témoignages sur des abus, des plaintes, toujours pas d'ombudsman, toujours pas de contrôle là-dessus non plus, donc des gros problèmes aussi à ce niveau-là. Le sujet plus principal dont je vais vous parler au niveau fédéral, c'est le programme des aides familiales étrangères, programme que vous avez sûrement entendu parler dans les dernières années, programme qui a été suspendu en partie depuis quelques temps, il n'y a pas de nouvelles demandes depuis quelques mois, un an et demi environ, programme qui permet de faire venir des femmes, surtout sud-asiatiques, pour venir s'occuper d'enfants en milieu familial ou de personnes âgées ou handicapées qui ont des besoins, qui sont en perte d'autonomie ou qui ont des besoins de soutien ou de maintien à domicile. Et on a entendu parler des abus parce que jusqu'en 2014, les femmes devaient habiter chez leur employeur. Ouais. Donc, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut amener comme abus psychologiques, physiques, sexuels. Saisie de passeport, semaine de travail de 90, 120, 120 heures, évidemment. Sans compter le fait qu'il n'y avait pas de normes minimales du travail, de chômage, de CSST, bon, etc., etc. Donc, programme suspendu. Et là, à la fin février, le ministre de l'Immigration a annoncé deux nouveaux projets pilotes pour remplacer ces programmes-là, parce qu'il y avait plusieurs dénominations. Et donc, des programmes qui vont être encore la même chose pour la garde d'enfants et pour les personnes vulnérables ou les personnes à la maison qui ont des difficultés. Et là, ils veulent l'améliorer, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, vous me direz si ça s'améliore, mais je pense que oui, en partie, mais peut-être pas au complet, c'est que les personnes qui vont être candidates pour appliquer pour ces programmes-là doivent aussi répondre aux critères pour la résidence permanente ensuite. Parce qu'un des problèmes, c'est que les personnes souvent faisaient 2 ans ici à temps plein, faisaient une demande de résidence permanente après et étaient refusées parce qu'on leur disait « Ah ben non, vous répondez pas aux critères, vous parlez pas français ni anglais, vous avez pas une scolarité assez importante, blablabla. » Et donc là, ils veulent qu'à l'avance, les gens choisissent répondent aux critères, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, qui n'ont pas bougé. Ouais. L'amélioration, c'est qu'il va y avoir un accent sur la réunification familiale, donc les personnes qui vont être acceptées pourront avoir des permis de travail pour leurs conjoints, conjointes et des visas d'études pour les enfants à charge. Donc ça, c'est la partie. Et ils pourront pouvoir changer d'employeur pendant les deux ans du programme.
C'est ça que j'avais demandé.
Parce que je ne l'ai pas précisé tantôt, ouais, mais non seulement ils devaient habiter chez leur employeur, mais ils ne peuvent pas changer. S'ils le quittaient, ils étaient renvoyés automatiquement. Ouais. Donc ça, ça a l'air que ça va être un petit peu plus flexibiliser, si on peut dire. Mais ça change pas vraiment le fait qu'il y a quand même ce rapport-là, là, employeur-employé, qui est assez inégalitaire et les gens n'ont toujours pas accès aux programmes sociaux canadiens ou québécois. Donc, voilà, ça va être en branle dans les prochaines semaines, prochains mois qu'on dit. Ça sera peut-être juste après les élections, donc peut-être ça va tomber à l'eau, évidemment. En attendant, pour les personnes qui sont toujours sur le programme, qui avaient eu une prolongation, parce qu'il n'y a plus de nouvelles demandes depuis quelques années, mais il y a des personnes qui sont encore sur le programme. Elles, ces personnes-là, vont pouvoir avoir une procédure accélérée de résidence permanente entre mars maintenant et juin 2019. Donc, okay. Dans les 3 mois qui s'en viennent, ces personnes-là peuvent faire une demande pour devenir résident, résidente permanente.
À condition qu'elles aient terminé, j'imagine, leurs 2 ans de...
Oui, ben c'est sûr, parce que c'est tout des prolongations, parce qu'il n'y a plus de nouvelles personnes depuis 2017.
Ah oui, c'est
fait
ça.
Que dans ce cas-là, c'est réglé. Mais c'est sûr que c'est à vérifier, parce que ça, c'est des annonces qui sont faites par le ministre. Après ça, comment ça s'applique avec les fonctionnaires au niveau du ministère, au niveau des personnes, comment sont rejointes là-dedans. Donc, ce serait à vérifier, mais c'est un dossier qui est quand même passé un peu... une annonce qui est passée inaperçue, je trouve importante de parler, parce que ça concerne beaucoup de monde. Et le nouveau programme, ça va concerner... Il va y avoir... un maximum de 5 500 demandes seulement par année. Dans l'ancien programme, il y en avait plus. Donc, tu sais, il y a tout ça aussi qui est en jeu. Mais comme ils disent qu'ils vont pouvoir faire venir les enfants et les conjoints, ça fait plus de monde. Donc, etc. Donc, voilà. Et si j'ai le temps pour un petit sujet, oui, justement, toujours au niveau fédéral, évidemment, le fameux programme de réunification familiale, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a 2 mois, il y a eu une journée avec 1 heure où les gens pouvaient s'inscrire. Ben oui. Pour faire venir leurs parents ou grands-parents, leur famille, et que ça a duré 11 minutes et le programme était fermé entre midi et midi 11 le 28 janvier. Donc, il y a 27 000 personnes qui ont pu déposer une demande, mais il y en a...
Qui n'ont pas réussi, qui ont essayé, justement.
Il y a plus de 100 000 personnes qui ont appliqué journée-là. Et évidemment, il y a des gens qui attendent depuis 10 ans qui n'ont pas pu l'avoir, d'autres, ça fait 6 mois puis ils l'ont eu, évidemment, c'est sûr. Puis là, ça remplaçait un système de tirage au sort qui avait eu lieu les 2 dernières années, qui avait été mis en place par McCulloch, l'ancien ministre de l'immigration. Donc,
fait entre le tirage au sort et le système
premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est ça, vendre des billets, c'est sur mission. Donc premier arrivé, premier servi. Donc les gens se sont trouvés, il y en a qui tant mieux pour eux, ça a marché. Mais pour plusieurs, il y en a qui avaient pris des journées de congé, des journées de maladie, il y en a qui avaient un handicap, il y en a qui ne connaissaient pas informatique, il y en a qui n'avaient pas le bon programme. Ça a l'air même qu'il y a un avocat de l'immigration qui disait que certaines adresses IP marchaient pas avec le serveur du ministère. Donc c'est bon. Fait que là, il y a des plaintes, des poursuites qui vont avoir lieu. Et finalement, ben cette année, il va y avoir 20 500 parents et grands-parents acceptés. Et l'année prochaine, 21 000. Mais il y a quand même 27 000 demandes qui ont été acceptées. Fait que je sais pas comment ça va se gérer. Mais c'est pour dire que c'est très, très controversé, très, très contesté par les personnes. Beaucoup les avocats, avocates en immigration. Parce que quand il y a des gens qui attendent depuis 10 ans, qui ont fait une demande, ils devraient passer en priorité normalement. Et ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est un petit premier topo des actualités fédérales, nationales. On en fera dans les prochaines semaines sur le bilan des Sunny Ways.
Joe, shut up! Bonjour, c'est Simon qui prend le micro pour la citation raciste. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc le yo shut up, c'était pas adressé à Mathieu là, sur sa chronique l'actualité canadienne. La citation raciste, c'est une petite capsule qui va revenir fréquemment, probablement à toutes les émissions parce qu'il y a du choix, disons, dans nos médias, dans notre monde politique. J'ai choisi une de mes préférées cette semaine, c'est Denise Bombardier. Donc, une chronique sur deux, ça pourrait être elle ou Mathieu Bock-Côté, un de ses collègues chez Québécois. Là, il y a du choix, mettons.
On fera une loterie.
Oui, il va falloir en faire parce que sinon, il y aura des perdants, là, j'imagine. Oui. Dans une de ses dernières chroniques incendiaires, Denise Bombardier a fait une chronique qui s'appelle... Une chronique, on appelle ça une chronique, ce genre d'affaire-là?
Un billet.
C'est très poli.
Billet, mais I-A-I-S.
Ah, mon Dieu, c'est... ouais, je vais me préparer des indicatifs avec des cymbales pour Marie-Ève.
Oui, c'est ça.
Ça s'appelle « Pas de lance-flamme devant l'horreur » et elle se scandalise que les organisateurs de la vigile en mémoire des victimes de la tuerie de Christchurch aient affirmé que des politiciens et des journalistes alimentent la montée de l'islamophobie. Je précise, ils n'en ont nommé aucun explicitement, ils ont juste relevé le fait qu'il pourrait y avoir des médias qui font ça. Donc, Bombardier les qualifie de lance-flammes et de grenades dégoupillées. Donc, rien de moins, quand même. Elle pourrait les appeler terroristes, ce serait un peu plus simple. Donc voilà, c'était la première
explosif
capsule...
Explosif comme déclaration.
merci. C'était ma première chronique. Citation raciste.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le Président a dit à Monsieur le Ministre de dire à Monsieur le Préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte, les métèques, on veut que des pots clairs. Les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a des faux airs d'un Vichy sous l'occupation. Réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papon. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours, mon frère, cours, ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté. Et maintenant, silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Un mouton. T'as tes papiers?
Attrapez-le!
Non. Dommage. Entendez-vous, chers citoyens, le cor de chasse qui sonne. Françaises, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie des droits de l'homme, je décrète. Quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre. Sachez, chassez, comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez croisé, les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend, six pieds sous terre. Hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde de chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître,
la chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre,
la chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école,
la chasse est ouverte.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc et vous écoutez les Apatrides Anonymes. Vous venez d'entendre le ministère des Affaires Populaires avec la pièce « La chasse est ouverte ». Alors, chaque édition des Apatrides Anonymes vous proposera un calendrier d'événements en lien avec les thématiques de l'émission. Il pourra s'agir autant de conférences, de projections de films, de manifestations et d'actions, mais aussi d'arts visuels ou de concerts. Solidarité sans frontières, dont on a reçu Camille à l'instant en entrevue, a lancé un appel à la mobilisation pour bloquer la déportation de Monica et de sa fille, dont la déportation est prévue ce mercredi. Contexte. Il y a 10 ans, Monica a quitté la Hongrie à l'âge de 18 ans avec sa fille, qui était alors âgée de à peine quelques mois, pour venir s'installer à Montréal. Toute la famille avait déjà quitté la Hongrie à cause de la discrimination anti-rome et de la montée des mouvements néo-nazis qui visent cette minorité ethnique en sol hongrois. Depuis, Monica a multiplié les démarches afin d'obtenir un statut légal au Canada, mais sa demande d'asile et ses autres demandes ont toutes été rejetées en raison à la fois d'une mauvaise représentation juridique et de la non-reconnaissance, évidemment, de la situation des Roms en Europe de l'Est. Plus récemment, donc, à l'automne 2018, Monica a entrepris une nouvelle demande d'aide humanitaire, mais le 13 mars 2019, donc il y a un peu plus d'une semaine, alors que sa demande n'avait pas encore été traitée, l'Agence des services frontaliers lui a annoncé une date de déportation pour le 27 mars, donc, comme je le disais, mercredi prochain, ce qui était donc moins de 2 semaines, en fait, après qu'elle ait eu... que l'Agence des services frontaliers l'ait contactée. Sa fille... Monica demande que sa fille, qui est maintenant âgée de 10 ans et qui parle pas hongrois, plus au moins terminer son année scolaire, ce que refuse l'Agence des services frontaliers. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit écrire directement au ministère de l'Immigration du Canada, au ministre de l'Immigration du Canada, pardon, qui est Ahmed Hussein. Vous trouverez tous les détails ainsi qu'un un modèle de lettre sur le site de Solidarité sans frontières, c'est www.solidarityacrossborders.org/fr, et également participer à la vigile d'urgence qui est organisée dès demain, lundi le 25 mars, à 11h, devant le musée de l'Holocauste qui est situé au 51-51 chemin de la côte Sainte-Catherine. Et sur ce, oui, voilà. Donc, sur ce, nous allons passer aux actualités internationales.
Je sais pas c'est quoi cette musique-là, je m'excuse. Ça m'émoustille pas mal, je pense. actualité internationale, donc je vais essayer de faire ça vite. On a un rythme quand même, on avance là, le temps file. On va aller au Maroc, en Espagne. Je vais commencer avec 2 petites nouvelles, la France. Si je dis test osseux, ça dit probablement rien à personne. Je pourrais dire test de maturité osseuse. Ce sont des tests médicaux qui sont utilisés sur les personnes migrantes mineures qui, faute de papiers jugés authentiques ou suite à des évaluations dites non concluantes, sont utilisés pour déterminer l'âge de la personne. C'est imposé, ben, des personnes se font imposer ce test-là et... Merde. Excusez-moi, je vais me reprendre. C'est la première émission, là, quand même.
En plus de la mise en onde en même temps, c'est tout un exploit.
Ouais, les papiers, les micros, les boutons, enfin. Donc, c'est des tests qui sont imposés à des personnes mineures pour qu'on puisse déterminer leur âge. C'est des tests médicaux, des radiographies de la main, du poignet, des scanners, des examens dentaires. C'était contesté en cours par plusieurs associations, dont Médecins du Monde. Et jeudi dernier, le Conseil constitutionnel français a malheureusement validé la constitutionnalité.
T'as pas choisi le mot le plus facile, en plus.
La constitutionnalité et la légalité de ces tests osseux qui pourront continuer à être imposés à des personnes migrantes mineures. Toujours en France, c'est pas une nouvelle, mais c'est plus une recommandation de lecture. Donc, ça me vient de Marie-Ève qui nous avait suggéré de nous abonner à l'infolettre de la CIMAD. CIMADE, c'est toujours très intéressant, très bien documenté. Ils viennent de produire un rapport qui s'appelle « Premier bilan de la demande d'asile en France et en Europe en 2018 ». C'est un travail titanesque. Ils ont dû aller chercher plusieurs données dans différents ministères, différents organismes publics. Ça pourrait être un peu indigeste comme rapport, mais c'est très bien fait. Il y a plein de graphiques qui illustrent tout ça. On y apprend l'origine des demandes d'asile, le type de demande, des personnes dublinisées, des personnes, des réinstallations, le profil des demandeurs, le taux d'acceptation et de rejet, c'est ventilé par pays d'origine. On y apprend entre autres, c'est l'Afghanistan qui est le pays d'origine de la majorité des personnes qui font des demandes d'asile en France. C'est suivi de l'Albanie, de la Géorgie. Étonnamment, puis comme c'est considéré comme des pays sûrs en France, payés par l'Union européenne, toutes les demandes sont rejetées à peu près automatiquement. Le Soudan arrive très haut dans la liste. La Syrie était assez loin, donc j'ai pas vraiment d'explication pourquoi. Je pense que la plupart des personnes qui devaient être déplacées sont déjà déplacées de la Syrie, sont déjà soit dans des camps dans les pays de la région ou dans d'autres pays européens ou déjà en France. Donc le mouvement migratoire à partir de la Syrie est peut-être en essoufflement. Puisque c'est quoi, la moitié du pays qui a été déplacé à peu près. Donc, je vous recommande de vous abonner à la CIMAD. Vous aurez toutes sortes d'informations pertinentes comme ça. Sinon, je finis très rapidement. On s'en va en Espagne, au Maroc. Je vous parle d'une militante connue des droits de la personne et des droits des personnes migrantes, entre autres. C'est Elena Maleno, qui était une militante, journaliste, documentariste, journaliste d'enquête espagnole. Je vais vous citer comment elle se décrivait elle-même. Elle dit, entre autres, là, mais je me suis intéressée à la traite d'êtres humains. Ensuite, j'ai commencé à former des policiers, des juges ou encore des services de sauvetage sur le sujet. Aujourd'hui, je m'occupe surtout des femmes et des enfants migrants. En 2002, elle a cofondé l'association de soutien aux personnes migrantes Caminando Fronteras, ou Walking Borders en anglais. C'est une association qui donne la localisation des barques disparues en Méditerranée, qui donne la localisation aux services de sauvetage, qui cherche à identifier les personnes disparues. Le numéro de téléphone de Walking Borders était devenu la dernière planche de salut pour beaucoup de ces personnes migrantes-là, des personnes qui traversent les frontières de manière clandestine. Des fois, les personnes appelaient là depuis le désert ou même en direct des embarcations en situation de crise ou en situation d'urgence. Madame Maleno a produit un de ses derniers rapports, c'est en 2018, ça traite des droits des femmes migrantes. Donc, elle a passé sa vie à lutter contre la traite des personnes, contre le trafic d'êtres humains, entre autres, et le gouvernement espagnol a décidé de l'accuser de trafic d'êtres humains.
Elle-même,
alors qu'elle a milité pour ça toute sa vie. Il y a des juges qui l'ont accusée et qu'elle avait formée elle-même sur ces sujets-là. Donc, c'est assez ironique comme situation. Donc, le gouvernement espagnol voulait la neutraliser, si on veut. Donc, l'enquête a piétiné, ça n'a rien donné, évidemment. Ils ont transféré la cause au gouvernement marocain. Et finalement, je crois en janvier, toutes les accusations sont tombées. Il n'y a plus rien contre elle, donc c'est la bonne nouvelle du jour, là, je vous dirais. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui cherchent à aider les personnes migrantes, on cherche à les criminaliser très souvent. Donc, si ça peut faire jurisprudence ou inspirer un peu l'avenir, tant mieux. Alors, on va poursuivre avec un invité bientôt, Marie-Ève.
Oui.
Tu peux y aller.
Alors, la normalisation du discours raciste, la montée de l'extrême droite, le renforcement des frontières et surtout leurs conséquences ont de quoi susciter notre indignation et notre colère. Si la dénonciation de ces phénomènes peut prendre plusieurs formes, les apatrides anonymes font le pari que l'humour cinglant mérite sa place dans la trousse à outils des luttes antiracistes. Une fois par mois, nous passons donc le micro à un ou une invitée pour un billet d'humeur sur le sujet et la forme de son choix. Coup de gueule, éditorial absurde, parodie sont donc au menu. Et pour notre première présence en onde, nous recevons celui qui s'est lui-même affublé de l'étiquette d'anarcho-taquin, le seul et unique Fred Dubé. Bonjour Fred.
Bonjour Marie-Ève, c'est bien dit, c'est une belle présentation. Alors, est-ce que vous connaissez Laurent Duvernay-Tardif?
Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre de visage.
Bon, ben parfait. On va faire un petit portrait, puis vous allez voir si c'est en lien avec votre thématique, tout le moins. Alors, Laurent Duvernay-Tardif, c'est le Québécois diplômé en médecine et footballeur dans la NFL qui gosse des bols en bois à main nue. On le replace un peu et il y aurait la on dit de lui qu'il est parfait, aucun défaut, beau, intelligent, performant, modeste, il y a tout pour lui. Bref, quel mauvais modèle pour nos jeunes. C'est le pire porte-parole pour la journée de la persévérance scolaire. Qui est inspiré par quelqu'un qui fait juste te rappeler à quel point t'es médiocre, hein, que t'es pitoyable, un quidam. Prends exemple sur la perfection et t'as Zeus descendu de l'Olympe, puis à côté t'as un ado boutonneux qui cumule les échecs, qui avait comme seule ambition passer à travers un cours de maths sans décher dans ses grands boxeurs. J'ai eu 73% dans mon examen oral. Ouais, puis, tu sais, Laurent a commencé à parler dans le ventre de sa mère en récitant des discours de Churchill. Laurent a appris à conduire à l'âge de 3 ans dans un tank. Laurent a pas de maison. Quand il a besoin d'un abri sécuritaire, il médite à l'intérieur de lui-même. Les pets de Laurent sont comparés à une supernova qui explose. Il modifie l'espace-temps puis crée une nouvelle étoile qui réchauffera une forme de vie extraterrestre. Même ses crottes sont parfaites. Ils ont gagné des concours mondiaux de cigares. Hein? Bill Gates fume les Monte Cristo à Laurent. Pire modèle, bref. Et son leitmotiv à Laurent, c'est « Tout tes questions d'équilibre. Ne renoncez pas à vos passions. » Oh, parce que le beau Laurent, cœur de lion, quand il parle d'équilibre, c'est simplement entre le sport et les études. Hein, c'est cute! Je sais entre mon devoir de français et faire une longueur de plus à la piscine. Que faire pour garder l'équilibre? Non, non, non! La plupart des êtres humains cherchent l'équilibre entre payer leur loyer et remplacer la jambe de bois trop courte du petit dernier. Que faire pour garder l'équilibre? Pendant une conférence, notre molosse érudit disait « J'encourage les jeunes à se trouver une passion, se trouver des projets et s'épanouir à travers ça. » C'est pas compliqué. Trouve-toi une passion, hostie pauvre. Une passion que tu peux quand même faire l'estomac vide. C'est ça, trouver l'équilibre. Prenez exemple sur Laurent Duvernay-Tardif, un heureux mélange entre Hercule et Stephen Hawking, c'est-à-dire un demi-dieu qui peut rester assis vraiment longtemps. Là, ça me donnerait juste envie de décrocher. Tu sais, joueur de la NFL le jour et médecin la nuit, même Batman est comme « Ah, ben j'ai eu mon moment de gloire. » C'est ça qu'il faut viser, c'est ça la réussite, accomplir deux immenses exploits en même temps. Tabarnak, moi je suis condamné à l'échec. On dit à des enfants poqués de la vie, tu sais, des marginaux, anxieux, avec une faible estime d'eux-mêmes, « Hey, prends exemple sur le footballeur médecin millionnaire. » Laurent, la plèbe est en liesse devant le Hulk Hogan lettré du Mont-Saint-Hilaire, une gueule de spartiate avec des mâchoires capables de sectionner une crowbar, sa barbe faite en loup-garou, des pattes musclées de centaure, ses grosses boulettes italiennes, puis sa verge immense où sa veine bleue est comparable à un cobra. Laurent pour président! Et là, des pères de famille accourent pour le voir avec leur jeune enfant trisomique habillé en joueur de football. Laurent, penses-tu que s'il est assez passionné, il peut devenir médecin, footballeur, millionnaire? Persévère. Oh, merci Seigneur. Ok mon homme, va gagner le Super Bowl. Et Laurent, ça c'est un homme. Hein? Puis vous autres les jeunes, hein? Ben, moi, je suis shapé comme un cerf-volant. Je me fais intimider en éducation physique à cause de mes oreilles qui pognent dans le vent. J'ai coulé mes maths. Je sens le sperme. Le soir, ma mère qui pleure m'empêche de dormir. Puis en faisant une psychose après un buvard, j'ai tué mon seul ami, un rat. Prends exemple sur Laurent Duvernay-Tardif. Qu'est-ce qu'il ferait, lui? Ben, il lirait Les Misérables de Victor Hugo en faisant des push-ups. Et voilà! Tu sais, il suffit d'être passionné. Ma plus grande passion, ce serait de pouvoir déjeuner le matin. Bon, là, tu parles comme un hostie de pauvre. pas comme notre modèle de footballeur paladin qui coûte plus cher à nourrir qu'un élevage de vélociraptor. On dirait que t'es né pour un petit pain. Un petit pain toasté avec du beurre pis de la confiture aux fruits des champs. Ah oui, s'il vous plaît, j'aimerais ça être né pour ça. Vous en restes-tu? Sir Laurent te répondrait, si tu veux, tu peux. Veux-tu être médecin footballeur millionnaire? Oui, je le veux. Ben, visualise, tout va bien aller. Hein, le même Laurent, obligé, la question que je me pose, c'est le même Laurent obligé, là, de travailler dans, au Tim Hortons la fin de semaine pendant ses études. Pense pas qu'il aurait réussi. Puis un enfant pauvre qui voudrait jouer au football comme Laurent, y a-tu les moyens pour sa passion? Est-ce qu'on y donne? Ce serait quoi son équipement? Un chaudron Tefal suanois, deux catalogues Sears ses épaules, puis un demi-pamplemousse comme Jack Strap, sa diète, l'autre demi-pamplemousse, son coach, un pédophile qui a fui le Kansas. Persévère! C'est comme si on avait tout eu comme Laurent. Comme si on était, comme si Laurent était un archétype. T'sais, c'est un homme, comme tout le monde, blanc, ben, comme tout le monde, de 6 pieds 5, comme tout le monde, issu d'un milieu aisé, comme tout le monde, qui a passé 2 années à bord d'un voilier avec sa famille pour découvrir la planète, comme tout le monde, qui est allé au collège privé, comme tout le monde, qui est le petit-fils de Guy Tardif, ancien ministre du gouvernement du Québec, comme tout le monde. Y aurais-tu réussi si Laurent avait été une femme arabe, petite fille d'immigrant pauvre? Tu sais, elle, là, elle aurait-tu autant de chances de devenir astronaute, hockeyeuse, millionnaire? Ben, si elle est passionnée, c'est sûr que oui. Bref, on devrait ériger une immense statue en or de Laurent Duvernay-Tardif au beau milieu d'un cimetière d'enfants pauvres qui n'ont pas eu les mêmes chances de réussir. En tout cas, moi, ça, ça me motiverait. Merci.
Et Vlant dans les dents. Alors, nous allons poursuivre avec Asian Dub Foundation.
Collaboration here with no ego trip. We know bring no badness, no fuss or fighting with it. On educational, why don't you keep up with this? Talk to pay attention to the conscious lyrics. Me cry, what them a do? And what them a chat about? When you them after 9 o'clock, can't stay out of government, man. Him stirring up on the mouth. Yeah, what him a say? Well, up and without a doubt, he cannot think for himself. Come the American to build up the tension, bring the idea to be turned. No, when the law is done, every satisfaction and it will be as life for the human, human and woman.
Who goes there? The original Asian Dub Foundation alongside Navigate around the MIC appear reality. We talk and strictly culture. Culture on the move this year. Hey, 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 hey. Asian Dub Foundation. Hey, 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 hey. Kingdom gets kingdom and nation gets nation. Time we are living in a revelation. Cause when you take a stock of the whole situation, the elder them a fight to the young generation. Instead of them a try build a firm foundation, them a bring human being down to pay degradation. With chemical warfare and nuclear weapons, starvation, separation, dehumanization. The world population have to take precaution from pollution, corruption, deception, infection. Politicians, them claim, send them that the solution. But deep in them heart, them have a wicked intention to rinse out poor people with tax and inflation. Segregating the massive, separating the nation. You think of something to me when you answer me question. You better watch yourself before they put you in a madman. All of them are sick in the place, no punch a mover. All of them are sick in the place, no punch a mover. All of them are sick in the place, no punch a mover. All of them are sick, all of them cool, them no punch a mover. So stop the sadness, so come and tell them proper. Encourage the massive to become their own creator. Because in this time you're up beyond the Astana. Then the government man is gonna try my shop and a plan to direct the crowd.
wicked reaction. Jump
hey, hey.
On.
Hey, 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 hey.
He had the navigator.
Hey, 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 hey.
Son of the culture, pan of the moon. You got to be conscious in everything that you do.
Yes, I'm the fund, yes, I will.
Yourself, kind of so that you get left on the shelf. Original navigator around the MIC. Here's a dump on this and live with reality. So yeah, you're my bad boy. Look here where you go. Angle yourself with manners and have respect. See?
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. Dans le Canada français des années 50 et 60, à la petite école, on pouvait acheter pour 25 sous une carte avec une image d'un enfant du tiers-monde auquel on donnait un prénom. On disait « Achetez un petit chinois ». C'était l'œuvre de la Sainte Enfance qui servait à financer les missions en Chine et en Afrique notamment. Les enfants disaient « petit chinois d'Afrique » quand l'image représentait un petit Africain. Plus on achetait de petits chinois ou de petits chinois d'Afrique, plus on était de bons catholiques. C'était la Minute coloniale présentée par les apatrides anonymes.
Toujours à l'émission des apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca. Merci à Simon pour la capsule de la Minute coloniale.
Que nous entendions en même temps que vous pour la première fois.
Pour la première fois, oui. Et qu'on répétera de temps en temps à l'émission avec différentes thématiques de notre belle histoire canadienne et québécoise. Donc, c'est la fin tranquillement de l'émission. Peut-être je remercie remercier les gens qui sont passés aujourd'hui. Camille de Solidarité sans frontières. On rappelle qu'il y a une manif le 13 avril pour les un an de la déportation de...
Lucie Granado.
Sinon, Fred Dubé, merci pour ton billet du mur.
Ça fait plaisir.
Du mur. Sinon, merci, un gros merci à Simon de notre équipe à la mise en onde.
Ça fait plaisir. On va faire quelques ajustements, mais c'est le fun.
C'est le fun, hein? Oui. C'est le fun de faire de la radio. C'est un retour pour nous. Et dans une émission complète, c'est la première fois ensemble. Donc, beaucoup de thématiques, beaucoup de musique, beaucoup de pré-enregistrés. Donc, on va faire encore mieux dans deux semaines. Sinon, ben, Marie-Ève, merci pour ton entrevue avec Camille d'SSF et pour ta participation à l'émission.
Merci à moi, merci à vous, chers comparses.
Merci tout le monde.
Merci, et peut-être vous dire aussi que les autres thématiques ou capsules ou chroniques qu'on va faire dans les prochaines semaines, peut-être, ça va être d'inviter des groupes militants à parler un peu de leurs enjeux, comme on a fait avec Camille, de façon plus générale. On va aussi essayer d'avoir en entrevue des personnes qui ont passé par le système d'immigration, qui sont soit sans statut, sans papier, en attente de statut, pour faire des entrevues sur leur parcours. Ça, c'était une des idées qu'on avait. On voulait aussi faire venir des artistes musicaux, entre autres, engagés ou ceux qui nous parlent de leur travail. Donc, différentes thématiques qu'on va aborder dans les prochaines semaines. Peut-être vous souligner que la saison, j'ai su ça tantôt, la saison hiver-printemps se termine à la fin du mois d'avril. Donc, on a 3 émissions avant la fin de la saison officielle et on fera une demande sûrement pour renouveler pour les prochains mois d'après. Mais on s'en parlera.
Pour la saison d'été.
La saison d'été.
Ah, mon Dieu.
C'est comme les sessions universitaires. Hein?
Oui,
donc,
oui, c'est
voilà,
juste...
C'est ça. Voilà. Et peut-être vous dire aussi que la prochaine émission est le 7 avril, 15h. Et et surtout que vous pouvez nous écouter en balado, rediffusion sur le shit, sur le site de choc.ca. On a une page d'émission et vous pouvez aller écouter les autres émissions de la station, évidemment, aussi. Et pour nous rejoindre, notre courriel, c'est apatridesanonymes@resist.ca. Et notre site internet, apatridesanonymes.info. Info.
Voilà.
Donc, bon deux semaines et on se repart le 7 avril.
Je suis de chic.